Les grands feuilletons de France Culture.
Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous ?
J'aurais besoin d'un petit renseignement, monsieur Cassette, concernant une canne portant votre marque et qui aurait été vendue le 23 ou le 24 octobre.
Je voudrais que vous puissiez au moins me décrire le client.
Oui, disons de ma taille, corpulence moyenne, légèrement voûté. Il porte un collier de barbe court, un par-dessus mastic et un chapeau blanc.
Oh oui, effectivement, la description est claire. Elle correspond à un homme qui est venu acheter une canne... Attendez, je regarde mon livre. Ah, voilà. C'était le 23 vers 20h.
Bien. Vous en vendez souvent des cannes ?
Ben, la dernière que j'ai vendue, du même modèle, cela doit remonter à 2 ans.
Je vous remercie infiniment, monsieur Cassette.
À votre service, monsieur.
La canne de Frédéric Larsan est neuve. Il s'agit donc bien de la même canne. Ce n'est pas lui qui a pu l'acheter puisqu'il se trouvait à Londres comme vous. Je pense que Darzac et Lacan ont quelque chose à voir ensemble. Mais si, comme vous le prétendez, l'assassin était dans la chambre jaune depuis 5 ou 6 heures et que le drame a eu lieu vers minuit, l'achat de cette canne procure paradoxalement un alibi irréfutable à Robert Darzac. Voilà, mon cher Joseph... Vous m'aviez demandé de me renseigner sur cette canne achetée chez Cassette. C'est fait, je vous serre les mains. Cher Sinclair, voilà du bon travail. Du travail comme je l'aime. Et le pauvre, s'il se doutait de ce qui se passe ici depuis 8 jours qu'il a quitté le château du Glandier. Bon, il faut qu'il revienne d'urgence. Je vais lui envoyer un télégramme. Thank you.
Oui, qu'est-ce que c'est?
C'est Clara, monsieur.
Ah bon? Ben, entrez, Clara. Non, mais écoutez, c'est une maladie ou quoi? Vous avez vu l'heure?
C'est un télégramme, monsieur.
Bon, ben, donnez-moi le télégramme, hein. Le télégramme. On roule ta bille, pourvu qu'il n'y soit rien arrivé. Voyons. Venez au Glandier par le premier train, stop, à portée revolver, au pluriel encore, tiens. Amitié Joseph, bon.
Monsieur prendra son petit déjeuner?
Mais oui, bien sûr. Allez, faites couler mon bain, sortez mon nécessaire de voyage, deux costumes, vous mettrez sur le lit mon manteau, mes gants, mon chapeau... Ah non. Pas mon chapeau sur le lit, ça porte malheur, non. Vous mettrez mon chapeau sur la chaise, allez.
Monsieur, ça va pour quelques jours?
Oh, bah, avec Rouletabille, comment voulez-vous le savoir? Bon, allez, au galop.
Ah, Saint-Clair, c'est une véritable joie de vous retrouver, je n'y tenais plus.
Ah, Joseph.
Asseyez-vous.
C'est bien la première fois que j'ai l'impression d'être indispensable.
Ah.
Ça va mal?
Oh, ça va très mal.
Mais qu'est-ce qui va mal?
Mais tout va mal.
Mais encore?
Bon, mais... je pense que Frédéric Larsan est persuadé que Robert Darzac est coupable.
Mais c'est ridicule.
Mais...
La canne.
Mais pour l'instant, elle est toujours entre les mains de Larsan, qui ne la quitte pas.
Mais peut-être, mais elle fournit un alibi en acier chromé à Robert Darzac, et ça, c'est important.
Bouf, hélas, il n'y a pas plus d'alibi que de beurre en broche. Pensez bien qu'au reçu de votre lettre, j'ai interrogé Darzac en douceur, tout dans la souplesse. Eh bien, il nie avoir acheté ce soir-là, ou un autre soir d'ailleurs, la plus anodine des cannes.
Eh ben voilà autre chose.
Ah vraiment, je ne sais plus où j'en suis. Ce Robert Darzac a des silences bien étranges. On ne sait pas exactement que penser de ce qu'il dit. Et ça, ça me gêne, vous voyez, Saint-Clair. Ça me gêne énormément.
Alors, Joseph, nous pataugeons dans le bizarre, l'insolite, le curieux.
Oh, oui.
Mon cabinet d'avocat à Paris me semble un havre de paix et de sérénité.
Enfin.
Bon, si j'ai bien compris, selon vous, Joseph, cette canne, dans l'esprit de Frédéric Larsan, est un objet précieux.
Vous voulez dire, en quelque sorte, une canne à conviction.
Mais de quelle façon? Hein? Bon, si l'on s'en tient à l'heure de l'achat, elle ne pouvait se trouver entre les mains de l'assassin au moment du crime, alors.
Bon, si vous croyez que ça va gêner Larsan, mon bon Saint-Clair, il n'est pas obligé de s'en tenir à mon système. Moi, j'affirme que l'assassin est entré dans la chambre jaune entre 5 et 6 heures. Mais qu'est-ce qui l'empêche, lui, de prétendre que l'assassin a pénétré entre 22 et 23 heures, hein?
Mais c'est idiot. Enfin, c'est juste au moment où Stangerson, sa fille et le père Jacques étaient là.
Mais précisément, avez-vous déjà procédé à des expériences de chimie, mon bon maître?
Ah non, enfin, ça n'a qu'un rapport très lointain avec le barreau.
Mais si vous l'aviez fait, vous sauriez qu'on se trouve très absorbé. Et en plus, la distraction des savants est proverbiale. Mm-hmm. Alors, Larsan a laissé entendre au juge de marquer que l'assassin avait bien pu se glisser derrière le professeur Stangerson et sa fille, alors qu'ils étaient penchés sur leurs travaux.
Mais c'est ridicule. Ça ne résiste pas à l'analyse.
Ah, comme vous dites, c'est absurde. Alors, Larsan parle d'un familier qui aurait... Enfin, le familier, si familier il y a, devait savoir que le professeur Stangerson allait bientôt quitter le pavillon. Il aurait donc tranquillement attendu son départ, sans risquer de traverser le laboratoire sous ses yeux, non?
Joseph, vous êtes-vous jamais livré à des expériences de chimie ou de physique?
Moi? Ben jamais, en voilà une idée.
Eh ben, tout le monde peut se tromper. Vous aviez l'air tellement sûr de vous tout à l'heure.
Ah, oh, parce que le fait est sans importance, mon tout beau. Et qu'en l'occurrence, je ne peux pas me ranger aux idées de Frédéric Larsan. D'abord, j'ai pas de temps à perdre. Car j'ai un système irréfutable, je vous le répète, qui me permet de ne pas me préoccuper des idées du brillant Larsan.
Et vous lui en avez parlé? Enfin, avez-vous au moins tenté de disculper Darzac dans son esprit?
Mais non, ça m'embête, mais non.
Oh.
Enfin, disons que momentanément, je suis obligé de me taire. Et en fait, tout pourrait finir par s'expliquer en ce qui concerne Darzac. Si je n'étais pas là.
Ah. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Mon cher, il y a contre Robert Darzac d'autres signes extérieurs, autrement graves que cette histoire de canne, qui restent pour moi incompréhensibles. Eh oui, incompréhensibles.
Et Larsan est toujours au château.
Ouais, oh, il l'a guère quitté. Il y couche, comme moi, et sur la prière même de M. Stangerson. En somme, le professeur a fait pour lui ce que Robert Darzac a fait pour moi. Hmm. Une étrange symétrie, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas?
Non,
ah, si, si, si. Voyez, Sinclair, le professeur Stangerson est accusé par le grand Frédéric de connaître l'assassin et d'avoir, dans une certaine mesure, favorisé sa fuite. Hmm. Et il tiendrait, toujours d'après Larsan, à faciliter par tous les moyens la tâche de son accusateur. D'ailleurs, Robert Darzac a fait exactement la même chose pour moi. Mon cher, simplement, nous courons tous les deux après la vérité. L'ennuyeux, c'est que c'est pas la même.
Vous êtes toujours persuadé de l'innocence de Darzac, hein, Joseph?
Oh, à présent, oui. Quand nous sommes arrivés au château du Glandier, c'était pas évident.
Mais qu'est-ce que vous dites?
Ah, je vois pas pourquoi je vous le cacherai. Mais j'ai cru pendant un instant à la possibilité de sa culpabilité. Écoutez, Sinclair, je crois que le moment est venu de vous raconter ce qui s'est passé entre Darzac et moi. Ah, dites donc, j'y pense, vous avez apporté les armes?
Ah oui, absolument. Ah. Deux ravissants bijoux de chez Gastine Renette, les voilà.
Oh, je vous en prie, Sinclair, ne les laissez pas dans la ceinture de votre pantalon. Si le coup partait, vous vous briseriez un doigt de pied comme un rien.
Oui, enfin, dites-moi au moins s'ils sont bien choisis.
Faites voir un peu. Ah, oh, parfait, 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 parfait. Très bien. Je vous les laisse en dépôt pour l'instant. Hein.
Ah bon. Mais vous croyez que nous allons nous en servir?
Dès ce soir, mon cher ami. Ah oui, nous passons la nuit ici. Ça vous ennuie pas?
Moi? Pas du tout.
Bon. Alors écoutez-moi, vous vous souvenez bien sûr de cette phrase qui a été le, en somme, le sésame ouvre-toi de ce château du Glandier.
Hum. Je me souviens fort bien, vous avez dit, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Vous voyez que j'ai une excellente mémoire.
Parfaite, absolument parfaite.
Et cette phrase, vous l'aviez retrouvée sur un morceau de papier à moitié carbonisé, dans les cendres de la cheminée du laboratoire.
Oui, toujours exact. En bas de ce papier, la flamme avait respecté une date, 23 octobre.
Oui, c'est ça. Et alors, que signifie cette date?
Alors, pour l'instant, retenez-la bien, Sinclair, elle est très importante.
Ben oui, mais alors expliquez-vous.
Oui, mais j'arrive. Vous vous souvenez que l'avant-veille de l'attentat, c'est-à-dire le 23 précisément, le professeur Stangerson et sa fille, Mathilde, se sont rendus à une invitation donnée par la présidence de la République.
Ah ben dites donc, vous êtes rudement bien informé, mon cher Joseph. Et quel est le rapport qui existe entre cette phrase et la réception élyséenne?
Quelle curieuse manie vous avez, mon bon maître, de toujours poser au moins deux questions par phrase.
Mais...
enfin bon... J'ai assisté moi-même à cette soirée en tant que journaliste, oui. Je devais interviewer un des savants de l'Académie de Philadelphie qu'on fêtait ce jour-là.
Ben, mon cher Rouletabille, vous êtes décidément partout.
Ah, c'est le propre d'un bon journaliste. Quant au rapport entre le 23 octobre et la phrase mystérieuse, écoutez-moi bien, Sinclair. Ce soir du 23 octobre à l'Élysée, j'étais assis dans le salon qui précède le salon des ambassadeurs. Et pour tout vous dire, je commençais à être fatigué d'entendre parler science. Fatigué d'avoir bousculé autant de personnages importants. Et bon, j'étais là. Je songeais à l'interview de mon savant philadelphien. En bref, j'étais tout bêtement en train de rêvasser. C'est alors que tout à coup, je sentis près de moi un parfum. Le parfum de la dame en noir.
Le parfum de la dame en noir?
Je savais que vous poseriez cette question. Mon cher Sinclair, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'était celui d'une dame, toujours habillée de noir, et qui m'a témoigné dans ma toute première jeunesse une tendresse très maternelle.
Mais Joseph, vous ne m'aviez jamais dit...
La dame qui, ce jour-là, était discrètement imprégnée du parfum de la dame en noir était, elle, curieusement, vêtue de blanc et merveilleusement belle. C'est une curieuse chose que la mémoire olfactive, mon cher Sinclair.
Ah oui?
Alors, soudain, mu comme par un ressort, je me suis levé et j'ai suivi cette femme et son parfum. Elle était accompagnée, cette beauté, d'un homme mort. Âgé, et qui lui donnait le bras. Et dans l'assistance, chacun se détournait sur leur passage.
souvent à l'Élysée. Mon mari est cousin du président. C'est la première fois que je les vois.
Vous manquez à tout votre voir, ma chère. Vous n'avez pas reconnu le professeur Stangerson et sa fille?
Malgré son nom, ce sont deux grands savants français.
Édouard, c'est ça des savants?
Eh bien oui, ma chère, c'est ça. Et c'est actuellement ce que nous possédons de mieux en ce qui concerne la fission de la matière.
La fission de la matière? Quelle horreur, quel pathos! Je n'y entends vraiment rien.
C'est sans doute un peu pour cela que nous sommes fiers de les avoir.
La femme est ravissante, cette toilette si simple.
Si je comprends bien, ma chère, le physique a pour vous plus d'importance que la chimie.
Oh, emmenez-nous au buffet, Édouard. Vous ne ferez plus d'esprit la bouche pleine.
C'est drôle, c'était pas seulement son physique qui attirait les regards et l'admiration, mais je crois son âme surtout. Oui, je sais, c'est un peu ridicule de dire ça, mais elle avait, comment dire, elle avait son âme dans les yeux.
Oh, oh, oh. Mon cher Joseph, vous en parlez avec le romantisme du 19e siècle.
Bref, j'en étais là de mes réflexions quand Robert Darzac, que je connaissais de vue, aborda le professeur et sa fille.
Ah, professeur.
Oui, Robert.
Ah, je suis heureux de vous retrouver dans cette cohue. Je traîne avec moi le professeur Arthur William Rance, qui tient absolument à vous parler.
Je ne saurais lui refuser ce plaisir.
Ah, s'il vous plaît.
I'm very glad to see you, professor.
Oh, thank you, Mr. Stangerson.
Miss Stangerson, I'm very happy.
You're welcome.
Oh, vous savez que je parle français. J'entends ça. Qu'en dis-tu, Mathilde?
Mais que les Américains sont capables de tout.
Non. Mr. Stangerson, cher ami, j'aimerais avoir avec vous quelques instants d'entretien.
Avec joie, nous allons essayer de nous isoler.
J'ai été passionné par la lecture de votre remarquable communication à l'Académie des sciences qui traite de la déperdition des corps électrisés sous l'influence des ultraviolets.
Je vous remercie. Mais j'aperçois la qualité qui n'attend que nous.
Oh, splendid!
Alors, le professeur Stangerson et Sir Arthur William Rance s'installèrent sur le canapé de la galerie et la conversation s'engagea. Et moi, j'étais fasciné. Je regardais la femme en blanc et en même temps, je respirais le parfum de la dame en noir.
Mathilde, vous êtes si pâle. Vous semblez souffrante. Voulez-vous que nous échappions quelques instants à cette atmosphère irrespirable?
Je veux bien. Merci, Robert. Allons faire un tour dans le jardin. L'air frais va me faire du bien.
Oui. Il faisait ce soir-là un temps très doux. Alors Mathilde Stangerson jeta un châle léger sur ses épaules et je vis bien que c'était elle qui incitait Robert Darzac à s'éloigner dans la solitude du jardin de l'Élysée. Je les suivis, bien sûr. Ils étaient là, ils marchaient à pas lents, le long du mur qui longe l'avenue Marigny, vous savez. Ils se tenaient par la main. Moi, j'avais pris l'allée centrale pour marcher parallèlement à eux, et à un moment, je coupais à travers la pelouse pour me rapprocher d'eux. La nuit était très sombre, le gazon étouffait mes pas. Et je les entendis.
Mathilde, ma chérie, vous avez quelque chose à me confier, n'est-ce pas?
Oui, Robert. Tenez.
Oui?
La lueur de ce réverbère doit vous permettre de lire ce papier.
Ils étaient arrêtés, là, sous la clarté un peu vacillante d'un bec de gaz. Et à un moment, ils se penchèrent, tous les deux, sur un papier que tenait Mathilde Stangerson. Ils semblaient passionnés par cette lecture. Tout à coup, j'entendis distinctement Mathilde Stangerson lire à voix haute.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oh, Robert, Robert, qu'allons-nous devenir?
Elle avait dit ça sur un ton désespéré. Et je crois bien que cette voix douloureuse restera longtemps présente à mes oreilles.
Et Darzac?
Ah, bouleversé lui aussi. Et à la fois blême de fureur, égaré, perdu. Tout à coup, il se saisit de la main de Mathilde Stangerson et, comment vous dire, il la baisa religieusement. Puis il la regarda un long moment avant de s'écrier.
Oh, Mathilde, Mathilde, comme je vous aime. Faudra-t-il donc que je commette un crime pour vous avoir à moi?
Chut. Robert, mon chéri.
Mathilde prit entre ses mains le visage de Robert, essuya avec douceur deux larmes qui y coulaient. Elle s'approcha tout doucement de lui à le toucher. Et lui déposa au bord des lèvres un baiser d'une infinie tendresse.
Et ensuite ?
Ensuite, ils s'éloignèrent.
Et naturellement, vous les avez suivis ?
Oui, du moins, je le croyais. Mais une fois retourné dans la grande galerie, il me fut impossible de repérer Robert Darzac. En fait, je ne devais plus le revoir. Qu'à notre arrivée au château du Glandier après le crime.
Mmh.
Par contre, j'aperçus Mathilde Sangerson, son père et les délégués de Philadelphie. Et auprès d'elle, Arthur Rantz, qui lui parlait avec animation, et les yeux de l'Américain pendant cette conversation brillaient d'un éclat...
D'un éclat ?
Oui, d'un éclat étrange. Mathilde Stangerson prêtait à ses discours une oreille distraite et une mine qui frisait l'indifférence.
Miss Stangerson, je ne parviendrai jamais à m'expliquer comment on peut être à la fois aussi savante, tellement ravissante et élégante. Ah, oh, si, je ne vois qu'une seule solution. It is the miracle of Paris.
Oh, please, Mr. Rance. Je préfère mon explication à la vôtre.
Oh, je vous écoute.
Je suis certainement moins savante que vous ne semblez le croire. Mais vous, en tout cas, vous êtes plus flatteur que vous ne le paraissez.
Oh, et tout de même... Je ne connais pas une autre femme au monde à qui on puisse parler de la fission de l'atome, de l'électroscope condensateur ou de physique nucléaire sans le faire immédiatement bâiller. Et vous, Miss Stangerson, cela vous fait tout simplement sourire. Savez-vous ce que me disait votre père il y a un instant?
Non, mais je sens que vous allez vous faire un devoir de m'en informer.
Le... Professeur Stangerson me disait la part importante que vous avez prise à la rédaction de son ouvrage « Matière fissible » dans le manuscrit disparu alors que vous étiez encore aux États-Unis.
Vous avez tout à fait raison, mon cher Vance. Ma fille est mieux et davantage que la meilleure des collaboratrices.
Oh, n'en croyez rien. Mon père est modeste à l'égard de toutes ses œuvres, sauf lorsqu'il s'agit de moi.
Non, il se fait tard, je pense que nous devrions rentrer.
En effet, père.
Vous nous excusez, n'est-ce pas, mon cher Vance? Il nous faut saluer le président et sa femme et nous avons ensuite un long chemin à faire pour regagner le château du Glandier.
Oh, je vous en prie. J'ai été ravi de cette soirée. Et je compte bien que nous aurons encore l'occasion de parler de vos travaux.
Vous serez toujours le bienvenu au château.
Oh, thank you. Thank you. Thank you again.
You're welcome.
You're welcome.
Monsieur, excuse me,
je vous en prie.
Est-ce que vous ne seriez pas ce reporter qui nous a interviewés cet après-midi après la clôture du congrès?
En effet, professeur Rance.
Ah, j'ai une merveilleuse mémoire des visages.
Mais pas celle des noms, c'est ça?
Oh, absolument. Attendez. Mr. Poustabi. Oh. Non, Mr. Lanstabal. Non, aidez-moi, je vous prie.
Non, Poustabi.
Oh. I am very terribly sorry.
Mais je vous en prie, vous êtes tout excusé. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit?
S'il vous plaît. J'aimerais beaucoup que vous m'accompagniez au buffet. Ah, j'ai horreur de boire seul, comme beaucoup de mes compatriotes.
Eh bien, je lèverai donc mon verre en l'honneur de votre pays.
Hey, le mien ou vôtre? En réalité, j'adore le gin.
Voilà. Je crains hélas que ce ne soit pas une boisson très élyséenne.
Ah.
Par contre, je vous recommande le champagne.
Oh, parfait.
Barman ?
Oui, monsieur.
Donnez deux coupes de champagne, s'il vous plaît.
Tout de suite, monsieur.
Oh, mais vous le versez dans le verre à soda, please.
Dans les verres à soda ?
Absolument. Ça, nous viendrons vous voir moins souvent.
Voilà, messieurs, deux coupes.
Merci beaucoup. Merci bien. Et là, comme ça, vous restez encore quelque temps en France, monsieur le professeur.
Oh, très peu de temps, en fait. Je repars le 26.
Ah, oui. Je vous ai vu en grande conversation avec le professeur Stangerson et sa fille. Vous les connaissez depuis longtemps?
Je ne sais pas, je les ai vus. Cela fait si longtemps. Je les ai connus à Philadelphie. Est-ce que cela fait 25 ans que vous y avez?
Ah, des temps, ça fait un sacré bout de temps, non?
Oh, je pense bien. Je vais rechercher un autre verre.
excellent. Oui, vous m'attendez là. Je vois que vous le
voulez. Non, mais je vous en prie, tout de suite.
Dites-en, Joseph, ça m'a l'air d'être un fameux numéro, votre Arthur William Rance.
Un redoutable pochard.
Et il ressemble à quoi?
Oh, un sanguin, avec le visage complètement couperosé. Je dirais sensiblement du même âge que Stangerson, pas très grand, corpulent, des cheveux blond-blanc, un peu filasse.
Oui. Il est sympathique?
Oh, oui, pas antipathique, en tout cas. Mais alors, j'ai vraiment cru qu'il ne s'arrêterait jamais de boire.
Ah,
incroyable, une véritable éponge. Bref, je l'ai quitté en le confiant à deux huissiers qui l'ont certainement hissé dans un fiacre. Le malheureux, il a dû avoir une gueule de bois carabinée.
Et ensuite?
Ensuite, j'ai quitté l'Élysée, je suis rentré chez moi.
Intrigué?
Oui. Et bouleversé.
À cause de...
Oui. J'avais retrouvé le parfum de la dame en noir.
C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Reims. Aujourd'hui, 11e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Reims, Clara, Daniel Danjou, Darzac, Michel Rull, Mathilde Stangerson, Evelyne Selena, le professeur Stangerson, André Valmy, Cassette, Gaëtan Jor, Sir Arthur Rance, Philippe Clay, et les voix de Michel Amiel, Marek Achour, Georges Lucas, Michel Morano. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 15 août 1983. À suivre demain à la même heure et d'ici là, réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.